BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un fou. Je suis d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Allez, un peu plus de 19h en direct sur BFM Business. La deuxième heure de Good evening business avec Audrey Tcherkov, bien sûr. Rebonsoir.
Rebonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous.
Journée d'action contre la réforme des retraites, édition spéciale pendant encore une demi-heure pour vous donner les chiffres qui commencent à arriver doucement mais sûrement. Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui parle désormais de plus de 2 millions de personnes dans les rues aujourd'hui. On va vous donner tout ça, mais c'est vrai que c'est la grande question qu'on pose ce soir. Quel est globalement l'impact d'une telle journée de mobilisation sur l'économie française?
Oui, alors un impact qui n'est pas très significatif d'un point de vue macroéconomique, mais qui évidemment est lourd de conséquences pour de nombreuses entreprises et de nombreux secteurs. Nous allons donc en parler ce soir avec des experts, des économistes et des représentants de fédérations professionnelles aussi.
Tout cela jusqu'à 19h et puis 19h30, bien sûr, on file à Davos. C'est parti, on est ensemble jusqu'à 20h.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
Good evening business, le journal.
On parle de tout ça dans un instant. D'abord, c'est Sofiane Aklouf qui nous donne les grands titres de l'actualité. Rebonsoir, Sofiane.
Rebonsoir. Et avec à la une l'optimisme de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, pour qui la conjoncture économique sera meilleure que prévue. Elle reste déterminée à continuer à faire monter les taux face à l'inflation. Écoutez-la depuis le forum de Davos.
L'inflation, quelle que soit la manière dont vous la regardez, est beaucoup trop élevée. Et à la BCE, nous sommes déterminés à la ramener à 2% dans un délai convenable et à prendre toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. C'est pour cela que nous avons déjà augmenté les taux d'intérêt de 250 points de base et nous maintiendrons le cap jusqu'à ce que nous soyons entrés en territoire restrictif suffisamment longtemps pour pouvoir ramener l'inflation à 2% dans un délai raisonnable.
Emmanuel Macron, lui, est en Espagne. Le président français a signé un traité d'amitié et de coopération avec le Premier ministre Pedro Sanchez. Les deux chefs d'État sont alignés sur une réponse européenne face au plan d'investissement protectionniste du président Biden, l'Inflation Reduction Act. Dans l'actualité des entreprises, le tribunal de commerce de Grenoble a placé aujourd'hui Gosport en redressement judiciaire. Après avoir constaté son état de cessation de paiement, deux administrateurs et deux mandataires judiciaires ont été désignés pour une première période d'observation de 6 mois. Le dossier Orpea, bientôt entre les mains de la justice. La conciliation entre le propriétaire de maison de retraite et ses créanciers a échoué hier. Il refuse le projet de la Caisse des dépôts qui proposait d'injecter 1,2 milliard d'euros pour en prendre le contrôle. Une procédure de sauvegarde semble donc inévitable. Meta, la maison mère de Facebook, écope, elle, de 5,5 millions d'euros d'amende de la part du régulateur irlandais. Le groupe est accusé d'avoir enfreint le règlement européen sur les données personnelles avec sa messagerie WhatsApp. Et on file tout de suite retrouver Sabrina Quagliozzi. Bonsoir. Direction, direction Wall Street, vous m'entendez? Ce soir, les marchés reculent.
Oui, pour la deuxième séance d'affilée, des investisseurs qui continuent de s'inquiéter de l'état de santé de l'économie américaine avec des statistiques qui pointent vers une dégradation. On a des statistiques concernant le Philly Fed, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie qui est en négatif pour le cinquième mois d'affilée. Les mises en chantier de leur côté en décembre ont reculé. Baisse également pour les permis de construire. En revanche, du côté de l'emploi, on continue de résister puisque les inscriptions hebdomadaires au chômage baisse de 15 000 la semaine passée pour s'établir à 190 000. Une tendance donc négative. Des marchés qui attendent ce soir la publication des chiffres du trimestre écoulé de Netflix, mais qui ont déjà eu les résultats trimestriels de Procter & Gamble. Des chiffres mitigés, un résultat net en baisse, un chiffre d'affaires en baisse également, mais supérieur aux attentes. Le groupe a profité notamment de l'augmentation du prix, de ses prix de 10% sur la période. Le titre Procter & Gamble qui est en repli dans une tendance donc négative. Le Dow Jones 0,5%, le S&P 500 repli de 0,7%, 3901 points. Le Nasdaq de son côté perd pratiquement 1%.
Merci beaucoup Sabrina. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Forte baisse ce soir, on est repassé sous les 7000, même sur l'indice parisien, moins 1,86%, 6951 points. On se quitte une minute et on revient. Le débat qui continue autour de cette journée d'action contre la réforme des retraites. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Good evening business, le débat.
19h09, retour en direct sur BFM Business. Donc encore 20 minutes de débat sur cette journée d'action dont les premiers chiffres donc commencent à émerger. Hein. Plus de 2 millions de manifestants en France selon la CGT. Pas de chiffres pendant, pour l'instant du côté de la police. Je vous rappelle les noms de celles et ceux qui sont avec nous autour de la table. On a Tcharkov, bien sûr, avec nous.
Bonsoir.
Audrey, Stéphanie Villers, économiste, conseillère économique de PwC. Gaël Sliman, le président d'Odoxa. Bonsoir Gaël.
Qui a enlevé sa veste.
Qui a enlevé sa veste.
C'est chaud. Attention, ainsi fait. Christophe Nguyen qui nous a rejoint. Bonsoir Christophe, président du cabinet Empreinte Humaine. Et puis Thierry Grégoire. Bonsoir Thierry, président de l'UMIH saisonnier. Est-ce qu'il faudra diviser ce chiffre par deux? Ça reste la grande question, André.
Oui, mais c'est ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est que toujours, les comptages des autorités et des syndicats diffèrent complètement. Ça va très souvent du simple au double. Alors peut-être que là, on a entendu, donc vous me disiez, 2 millions de personnes.
2 millions d'après la CGT, 1,12 million en France, après le ministère.
Bah, vous voyez, voilà, c'est ça. Toujours est-il que c'est vrai que pour un jour de semaine, c'est quand même assez massif. Mon sentiment, c'est que ça rappelle un peu ce qui s'est passé en 2010, réforme Sarkozy. Je dirais que c'est voilà, autour des mêmes ordres de grandeur. Et puis aussi une mobilisation exceptionnelle de par la diversité des catégories socio-professionnelles qui manifestent aujourd'hui.
Donc on n'a pas divisé par deux, mais pas loin finalement, hein, c'est ça.
Non, mais du coup, comme la propension des syndicats à exagérer leurs chiffres systématiquement dans toutes les mobilisations... Ouais. Est relativement constante. Vous savez, en sondage, on dit parfois il vaut mieux une mauvaise question répétée plusieurs fois et la suivre dans le temps plutôt qu'une bonne question. Ça veut dire que c'est un gros mouvement et 1,12 million d'après la police, c'est aussi très très important.
Donc première journée réussie parce qu'il y avait le test, il y a le test de 2 millions effectivement.
Il faut attendre de voir la fin pour s'assurer que ça ne déborde pas.
Mais on va attendre effectivement l'affinage. Stéphanie Villers, c'est le débat qui nous occupe ce soir. Voilà l'impact économique de ce genre de mouvement. À la longue, bien sûr, sur des mouvements qui s'éternisent. Là, 1 million, est-ce que ça va nous emmener très très loin? On ne sait pas. On nous dit que les précédents gros mouvements qui ont pu durer quelques semaines, quelques mois, nous ont coûté 0,1, 0,2 points de PIB. Est-ce que vous considérez malgré tout qu'on est sur un impact assez epsilonesque finalement pour l'activité économique?
Bah oui, non, mais comme vous l'avez dit, tout dépend de la durée de ces manifestations.
Epsilonesque au plan macro, au plan micro, on verra avec Thierry Grégoire que c'est pas la même, évidemment. Pardon, je referme la parenthèse.
Alors, plus les manifestations durent, les grèves, plus ça va bien sûr impacter les entreprises. Donc on sait qu'il y aura de toute manière un effet négatif. Après, on voit, enfin, tout est une question en fait de confiance et de morale. Hein, l'économie, c'est quand même beaucoup ça. C'est pas tant qu'il y aura un effet tangible dès ce mois-ci, mais par contre, ça peut donner un coup au moral aux entreprises hein, qui font face quand même, elles aussi, à une crise énergétique. Avant, c'était une crise sanitaire, à la fois aussi des tensions économiques. Donc, voilà, c'est rajouter une couche supplémentaire. Je vous rappelle que le pendant est un peu excessif, mais par exemple, au Royaume-Uni, ils connaissent exactement la même chose, plus le Brexit. Bah, ça n'a fait qu'amplifier fait les dévastes en économie. Bon, alors, bon, là, on n'en est pas là. Hein, c'est pas aussi violent que ça, mais
alors qu'en plus, enfin, il faut aussi le rappeler parce que c'est vrai qu'on reçoit des entreprises tous les soirs sur ce plateau. Le moral des entreprises était plutôt très bon jusqu'alors, malgré la conjoncture très anxiogène.
Alors moi, si je regarde sur longue période, je pourrais dire que effectivement, ça peut entacher le climat des affaires. Cela dit, on voit depuis la crise sanitaire que le climat des affaires reste au beau fixe. Voilà. On reste même encore aujourd'hui
au-dessus... Un marché de l'emploi toujours très actif.
Absolument. Au-dessus de la moyenne de longue période. Alors, est-ce que les entreprises françaises sont-elles passées dans une autre étape, celle de la résilience devant tout
ou de la résignation
de oui, mais la résignation...
Pour l'instant, c'est plutôt la résilience.
C'est un effet...
Ouais, ouais.
Voilà, on courbe le dos. C'est pas forcément bon pour le chiffre d'affaires. Cela dit, là c'est la résidence, c'est comment trouver en fait des ressorts face à des chocs externes. Et on est peut-être il y a peut-être une nouveauté dans le climat actuel en France, et qu'on voit depuis 2022, depuis l'année dernière, les entreprises françaises résistent.
Bon, impact macroéconomique de ces mouvements sur le long terme finalement assez marginal. On dit quoi, 0,1, 0,2 points de PIB historiquement, oui. Quand on se repenche sur 30 ans. Impact micro pour certains secteurs, dont le vôtre, Thierry Grégoire, Union des métiers et l'industrie hôtelière. saisonnier en ce qui vous concerne, mais hôtellerie-restauration fortement impactée. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que, pardon de le dire comme ça, vous les accumulez depuis des années. Et le mouvement des Gilets jaunes, les mouvements de grève et manifestation ont fait beaucoup de mal à votre secteur, hein, fondamentalement. Hein.
Oui, c'est clair que dès qu'il y a des mouvements sociaux, pour nous, ça nous impacte. Alors, bien évidemment, depuis 2019, qui était la dernière, entre les manifestations retraite, transport, etc., effectivement, plus les périodes de confinement très longues, puisque c'est le secteur qui a été le plus longtemps à l'arrêt. Mmh. C'est vrai que moralement, c'est extrêmement compliqué pour un certain nombre de chefs d'entreprise. Mais il faut rester aussi quand même, on est quand même résilient. Je pense que là-dessus, le mot est juste. Merci de le rappeler. Mais moi, ce qui m'inquiète dans ces mouvements sociaux, au-delà de la crise énergétique, on en parle beaucoup, mais tout le monde aujourd'hui sur la crise énergétique n'est pas dans la même problématique. C'est très indépendant en fonction de ses contrats. Moi, ce qui m'inquiète plus aujourd'hui, c'est... Je suis assez intimement convaincu que si ce gouvernement retirait sa mesure d'âge, l'opinion publique reviendrait à quelque chose de plus favorable. Et une journée comme aujourd'hui, c'est on a en fait trois problématiques concernant notre secteur d'activité. C'est dès qu'on touche à la mobilité, automatiquement les gens se mettent en télétravail, donc beaucoup moins de monde dans les restaurants. Dès qu'on touche à la mobilité, c'est aussi des nuits d'hôtel en moins. Donc aujourd'hui, c'est une journée pour laquelle on aura une activité
perdu
à l'arrêt.
Le problème, c'est que dans vos métiers, ça ne se rattrape pas. Ça,
on a une économie de montagne qui, aujourd'hui, à Danèche, qui revient, donc redémarrait son activité et se retrouver avec un mouvement qui peut durer, qui peut même avoir un système de grève perlée, que j'ai pu entendre, notamment du côté des transports et de la SNCF. Alors l'aérien, moins, parce que les aiguilleurs du ciel ne sont pas en grève, ils ont un dispositif qui est maintenu pour eux, mais dès qu'on touche aux mobilités, automatiquement, ça crée un déficit en termes de chiffre d'affaires. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est la durée. Et si ça s'inscrit dans la durée, avec des entreprises qui ont un moral, alors certes, ils sont résilients, mais à un moment donné, entre la perte d'activité, des entreprises qui restent fragiles par leur niveau d'endettement qui est quand même très lourd, des PGE dans lequel on va devoir les rembourser, fait que de toute façon, moi, je dis à mes collègues, allez vite, vous, avant d'être en cessation de paiement, vous protégez au tribunal de commerce en situation de sauvegarde ou même voir des mandats ad hoc, n'attendez pas que tout brûle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est vraiment cette durée-là. Ce gouvernement, s'il n'a pas compris que la mesure d'âge, on peut faire la réforme des retraites, et je pense que l'erreur qui a été commise en 2019-2020, c'est d'avoir réintroduit par la droite et le Premier ministre de l'époque la mesure d'âge. Si cette mesure d'âge n'avait pas été mise sur la table, la réforme des retraites serait passée en 2020 sans aucun problème. Et là, ce qui m'inquiète, s'ils maintiennent, ils s'arc-boutent politiquement sur cette mesure d'âge, on est parti pour un conflit qui peut durer jusqu'en comme en 1995, des semaines et des semaines. Dans un contexte où la plus grande organisation qui est la CGT est dans un contexte électoral. Oui. Pour être aussi un négociateur avec au niveau de la CPME, c'est ça qui m'inquiète. Ça va être la durée dans le temps.
C'est la surenchère de la CGT, c'est ça
qui m'inquiète. Si ça s'arrête à un mouvement comme aujourd'hui et qu'ils arrivent qu'il y a une fracture dans l'unité syndicale, parce qu'aujourd'hui il y a unité syndicale dans l'organisation de cette journée d'aujourd'hui, s'il y a fracture demain, et que l'opinion publique s'aperçoit qu'on retire la mesure d'âge, je pense qu'économiquement, on pourrait s'en sortir.
Non, mais revenir sur cette mesure d'âge, ça serait un discrédit énorme pour le gouvernement.
Alors, c'est ce que je disais dans la première partie de l'émission. Je disais la même chose que vous. Non pas donner, pas de leçons à donner et à dire, mais vous avez raison. C'est très important de le dire parce qu'on entend parfois tout et n'importe quoi sur les enquêtes d'opinion. Les gens, c'est très simple. Hein. Ils n'ont pas envie de partir à la retraite plus tard. Ils n'ont pas envie de cotiser plus. Mais s'ils n'ont pas le choix, à chaque fois que ça leur est posé, ils préfèrent qu'on joue sur la durée de cotisation. Et vous aviez tout à fait raison de rappeler que sur la précédente réforme des retraites, l'idée d'une réforme systémique, les gens disaient « mais c'est formidable, on est d'accord ». L'idée de devoir cotiser davantage, ils disaient pas « c'est formidable ». Mais bon, ils étaient prêts à s'y résoudre compte tenu
Les gens disaient « on est d'accord », mais une grande partie de la population aussi disait qu'elle ne comprenait pas justement au final à quel âge elle allait partir à la retraite. Enfin, c'était moins clair quand
même. Ce qui est sûr, c'est que sur toutes les réformes des retraites, à chaque fois que ça a chopé, c'est sur la question du report de l'âge légal. Et sur la précédente, ça ne s'appelait pas report de l'âge légal, il y avait un âge pivot qui a été mis. Et dès que l'âge pivot a été mis sur la table, l'opinion s'est retournée contre cette réforme des retraites. Et ce que vous disiez, monsieur, je l'indiquais aussi tout à l'heure, c'est que le danger, c'est l'accumulation. Là, j'ai notre indice de morale économique qu'on suit avec BFM tous les mois, auprès des ménages, auprès des Français, il est au ras des pâquerettes. Avant la mobilisation. Ça peut avoir des effets économiques durables, ça.
Stéphanie Villers, oui.
Oui, enfin, après, il faut peut-être pas toucher à l'âge de départ à la retraite, mais si on décale aussi on agrandit les trimestres, forcément, de fait, ça décale aussi l'âge. Donc, il n'y a pas de miracle, hein, lorsque.
Oui, mais ça a moins de portée, c'est moins concret. Vous décalez l'âge, c'est très concret, c'est un vrai totem. Vous faites passer.
Oui, mais alors donc.
Vous agissez par la droite de cotisation.
Je ne peux pas comprendre ça. Enfin, vous voyez, moi, je pense qu'au contraire, enfin, il faut quand même dire.
Christophe Nguyen, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Gaëlle, comment est-ce que justement ce moral des ménages ruisselle au sein des entreprises ?
On va dire que le moral au sein des entreprises et pas des entreprises ou des chefs d'entreprise, il n'est pas au beau fixe. On est toujours quand même à un post-Covid, un héritage avec des grandes enquêtes qui montrent quand même il y a un épuisement, même des enquêtes issues des institutionnels comme la DARES. Il y a aussi des indicateurs qu'on peut voir, que l'espérance de vie qui est mise en avant comme étant en augmentation régulièrement est quelque chose qui est à prendre en compte. Par contre, on sait que l'espérance de vie en bonne santé, lui, stagne depuis 10 ans. Et je crois que la question de la santé des personnes, et on parle dans cette réforme d'usure, on parle qu'apparemment c'est un wording qui arrive comme à la place de la pénibilité, ça dit quelque chose de comment on va considérer les conditions de travail. Et je crois que c'est ça aussi que les salariés veulent entendre. Aujourd'hui, on a des pénuries de recrutement, on a des salariés qui ont un rapport différent au travail. Dans les entreprises, les managers sont décontenancés quant au nouveau rapport.
C'est ce que nous disait Bruno Meckling tout à l'heure. Oui,
effectivement,
absolument.
Que je salue. Ont mettent des frontières très nettes aussi vis-à-vis de leur vie professionnelle, Il y a le télétravail qui a été une vraie révolution aussi pour le monde des entreprises. Et je crois que ça, c'est pas assez pris en compte.
Mais est-ce qu'on peut dire que les salariés aujourd'hui mettent sur le même plan leur bien-être personnel, en même temps que leur trajectoire professionnelle à l'intérieur justement des entreprises et leur carrière?
Alors déjà, la promesse quant à pouvoir se développer et rester longtemps dans l'entreprise, maintenant, elle est beaucoup moins crue, hein, surtout dans une période d'incertitude qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, quand on leur met en face finalement un allongement alors qu'ils ont l'impression de s'épuiser ou de ne pas voir le bout, si vous voulez, ça ne fait qu'amplifier, on va dire, une forme de désespoir, hein. Et je crois que cette manifestation ou cet engouement est aussi significatif de quelque chose. Et cette popularité, finalement, contre cette réforme, elle a du positif pour le moral des salariés, peut-être pas sur l'économie, effectivement, parce qu'elle crée une forme de rejet, de solidarité. Donc ça, c'est le psy qui parle. C'est quelque chose de positif pour le moral, hein, des gens, parce qu'ils se disent qu'il y a une certaine forme de solidarité.
Mais justement, votre secteur, Thierry Grégoire, est probablement un des plus impactés par rapport à ce que Christophe vient de dire.
Oui, mais puis en plus, le salaire arrive en quatrième position aujourd'hui des revendications, et notamment des plus jeunes.
Et à cet égard, les hausses de salaire annoncées il y a quelques mois n'ont pas changé fondamentalement la donne. Il y a toujours autant de turnover dans votre profession.
C'est d'abord parce qu'on n'a pas encore fini de travailler sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail. C'est qualité de vie au travail, c'est les valeurs de l'entreprise que l'entreprise véhicule, et c'est aussi derrière les conditions de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sacrifices, le côté sacrificiel d'une certaine génération ne sont plus prêts. Alors on a aussi d'un autre côté, puisqu'on a une telle pénurie, mais dans notre secteur, mais comme dans d'autres secteurs, de plus en plus de seniors qui reviennent au travail, parce que eux, un certain nombre d'entre nous, plus de 60 ans, ont des retraites, des pensions minorées, et veulent revenir sur le marché du travail pour retrouver un contrat de travail, pour justement combler ça. Et moi, je pense que, même si j'entends ce que vous dites, on peut travailler en France jusqu'à 70 ans. D'accord. Après, ce qu'il faut, c'est...
Selon les métiers, hein.
Selon les métiers, mais il y a des métiers plus ou moins pénibles, et je pense que c'est plutôt par secteur qu'il faudra travailler, qu'il aurait fallu travailler, que de mettre quelque chose qui est en train, en fait, cette mesure d'âge, en fait, elle est en train de crisper l'opinion publique, et encore une fois, économiquement, et je pense notamment à ceux de la montagne en ce moment, qui attendent avec grande impatience de faire une très belle saison. Là, je peux vous dire que les annulations commencent à arriver, on a les vacances de février qui arrivent.
Oui.
Si c'est juste une ou deux journées de grève dans la semaine qui vient, ok, mais je ne crois pas qu'on est parti pour...
Mais attendez, ce que vous dites, c'est que là, les annulations pour les vacances commencent à arriver par rapport aux jours de grève annoncés.
À ce moment, on va attendre la position de l'intersyndicale, le nouvel agenda qu'ils vont fixer, mais s'ils nous sortent des journées de grève pendant les vacances de février, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup plus d'annulations parce que les gens iront ailleurs. Et donc, c'est terrible pour l'économie de montagne, c'est terrible aussi pour l'économie en général et notamment tout notre secteur d'activité, mais je pense aussi aux commerçants, aux artisans, qui vont se retrouver avec des mouvements sociaux, avec un phénomène. Il y a des villes, moi j'en ai une à Toulouse, où on a des points durs à chaque fois, et ça peut s'éterniser. Et c'est ça qui est terrible, une coalition en fait fameuse coalition des luttes, hein, dont tu parlais certains à gauche, peut se cristalliser.
Stéphanie Villers.
Oui, moi je pense que la réforme n'a pas été assez innovante. C'est-à-dire qu'on a dit on décale l'âge de départ à la retraite, que ce soit 64 ou 67 ans pour avoir un taux plein, aux entreprises et aux salariés de se débrouiller. Bah oui, mais on connaît le taux d'emploi des seniors et on sait déjà qu'il est très faible. Déjà, les entreprises en fait font aussi le calcul entre garder un senior qui coûte très cher, qui va arriver à la retraite, et prendre un plus jeune qui a la même productivité, même supérieure et qui coûte beaucoup moins cher. Mais il y a cette réalité là qui est pas le gouvernement n'a pas du tout pensé. Et puis il y a ces salariés qui se disent nous notre condition de travail sur le long terme ça va pas être acceptable. Mmh. Et je pense qu'en fait il faudrait envisager le temps partiel pour les salariés seniors adapter qu'on ne passe pas directement de l'activité à l'inactivité qui est la retraite, mais les accompagner petit à petit, que l'entreprise en fait y trouve aussi un intérêt. Et puis je vous dis, en face on a développé pour les jeunes, on développe l'alternance et l'alternance c'est de l'emploi à temps partiel pour les entreprises, donc ils sont déjà à temps partiel ces jeunes. Alors, si on met en face des seniors qui ont une vraie valeur ajoutée, parce que quand le gouvernement dit il faut les accompagner dans leur formation, non mais excusez-moi, on peut pas dire à quelqu'un de 64 ans d'aller se reformer à faire un autre métier.
Pas 64 ans, mais voilà. C'est tout au long de la vie, l'employabilité, ça peut commencer à 50-55 ans, enfin.
Oui, mais enfin, ça se saurait si c'était.
Non, mais sur le partage de compétences et d'expériences entre les seniors et les plus jeunes, c'est ça.
Après, je pense que quand on a accumulé 40 ans d'expérience, on a une vraie valeur. On a une vraie expertise, on a des choses à transmettre. Mmh. Et même, je pense que les salariés sont prêts à admettre ça. Ils ont quand même travaillé pendant...
Mais un mot quand même sur l'indice, ce fameux index dédié aux seniors. Est-ce que vous dites tous, ce soir sur ce plateau, que ça ne servira à rien ?
Christophe ?
C'est un bon début, mais ça ne sera pas suffisant. Sûr, oui. Mais ce que je veux dire aussi sur les seniors, c'est que ça donne aussi une question d'exemplarité pour les jeunes. Quand ils voient leurs parents, leurs aînés, on entend beaucoup ça, nous, en entreprise, qui finalement se sont peut-être parfois écroulés pour un rien dans leur travail, ça donne pas envie, si vous voulez, ça donne pas ses aspirations. Et je crois qu'effectivement, cette mixité au sein de l'entreprise est importante. Il faut inventer des nouveaux dispositifs, il faut donner une vraie place aux seniors qui parfois se sentent un peu écartés rapidement parce que trop cher, trop lourd, pas adapté au numérique, etc. Et finalement, d'avoir une politique plus inclusive aussi autour de ça. Et on gagnera de la productivité, on gagnera des cotisations. Je pense aussi que le domaine de la santé est important. Moi, j'entends l'équilibre des vies et les conditions de travail. Quand un senior en entreprise, quand il part à la retraite, s'excuse parfois de ne pas avoir vu ses enfants, du fait de son engagement et de son sacrifice, si vous voulez, ça donne une image qui n'est pas attractive. Et je pense qu'il faut revoir ce modèle-là.
C'est très révélateur. 30 secondes avec vous, Christophe, pour dire, bon, je ne voulais pas ramener tout ça à ça, mais pour reboucler sur notre sujet de l'activité menacée, bon, ces salariés qui ont le moral dans les chaussettes, pardon de le dire comme ça, c'est de la perte de productivité, on est d'accord, évidemment, au quotidien. Quoi.
Oui, bien sûr. Il y a ceux des secteurs qui vont être directement impactés, qui ont, dans un contexte d'inflation, se posent des questions et d'incertitudes, effectivement, les saisonniers, la restauration. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui va peser encore plus. Il va y avoir une attention particulière vis-à-vis du climat social.
Mais ce qui va peser aussi sur le moral des salariés, c'est l'issue des NAO.
Enfin, des salariés, des dirigeants, l'entreprise, elle est composée.
Et des dirigeants, évidemment.
Donc, oui, bien sûr. Alors, les NAO, de toute façon, aujourd'hui, on arrive à une quadrature du cercle avec une solution qui est, en tout cas, avec les augmentations, l'inflation galopante, les augmentations de salaire aujourd'hui, elles ont été faites pour certains secteurs l'année dernière de façon drastique, dont mon secteur d'activité. Mais c'est pas suffisant. On voit bien que quand même, on augmenterait les salaires. Alors, bien sûr, l'inflation là, donc il faut suivre. On voit bien que le rapport au travail, vous l'avez très justement dit, et je le dis depuis très longtemps, la digitalisation a été accélérée, et le rapport au travail, notamment avec la période de Covid.
On suivra tout ça, à commencer par ce que nous diront les syndicats qui sont toujours réunis en intersyndicale, qui vont communiquer dans la soirée, très probablement, sur la suite à donner au mouvement. Je vous rappelle le chiffre qu'on a ce soir, plus de 2 millions de personnes dans les rues d'après la CGT, 1,12 million selon le ministère de l'Intérieur. On attendra de bien savoir ce que
nous disons. Mais dans les deux cas, c'est beaucoup.
Dans les deux cas, c'est beaucoup. En tout cas, on a passé le cap du million, apparemment. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir ce plateau. Stéphanie Villers, économiste, conseillère économique de PwC. Gaël Sliman, le président de Doxa. Thierry Grégoire, le président de l'UMIH saisonnier. Puis Christophe Nguyen, donc le président du cabinet Empreinte Humaine. 19h27, c'est fini pour aujourd'hui.
C'est terminé, Guillaume. En effet, c'est passé vite. Si vous avez raté une partie de cette spéciale retraite et grève, c'est à retrouver sur l'ensemble de nos plateformes bfmbusiness.fr.
Dans un instant, on retrouve Edwige Chevrillon, bien sûr, depuis Davos, avec deux invités ce soir. D'abord, Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie, et puis Christophe Catoire, le patron d'Adeco France. Tout ça pour nous accompagner jusqu'à 20h. Et nous, on se retrouve, bien sûr, demain, 18h, pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business, l'info éco.
Écoutez, on va vous entendre dans un instant. Petit problème de micro. Voilà, je ne sais pas si ça pourrait être réparé. Est-ce que vous m'entendez, Sofiane ?
Moi, oui.
Voilà, on vous entend. C'est parfait. On vous écoute.
Eh ben, c'est parti. Allez-y. On repart. Ce chiffre ce soir, plus d'1,100,000 personnes dans la rue pour s'opposer à la réforme des retraites. C'est le chiffre donné par le ministère de l'Intérieur. De son côté, la CGT revendique 2 millions de manifestants. Les agents d'EDF en faisaient partie justement à près de 46%. Ils ont procédé à des baisses de production électrique qui ont atteint 3400 MW selon l'entreprise. Le parc nucléaire était disponible à 63% de sa capacité totale à midi contre 72% prévu. Deux coupures volontaires de courant ont été relevées par Enedis. Dans l'Essonne et en Haute-Marne, la CGT revendique cette coupure qui a duré moins de 2 heures. Des retraites, il en sera évidemment question demain. Dans la grande interview de la matinale, Bruno Le Maire est l'invité de Good Morning Business. L'interview est à suivre à 8h15. L'autre grand titre de l'actualité ce jeudi, c'est la prise de parole de Christine Lagarde au Forum de Davos. La conjoncture économique ne sera pas brillante, mais s'annonce bien meilleure qu'attendu. Écoutez la présidente de la BCE.
L'activité ralentit après une excellente année 2022 où la croissance a été de 3,4%. Notre prévision pour 2023 est de 0,5%, donc ce n'est pas une année brillante, mais c'est beaucoup mieux que ce que nous craignions. Le marché du travail en Europe n'a jamais été aussi dynamique qu'il ne l'a été aujourd'hui et le nombre de chômeurs est au plus bas depuis 20 ans.
Et tout de suite, on retrouve Edwige Chevrillon à Davos pour sa grande interview de Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Notre invité, c'est Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration du groupe Engie. Bonjour Jean-Pierre Clamadieu.
Bonjour Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous, il fait un peu froid, j'ai même perdu ma voix. Merci d'être avec nous, on va parler d'énergie, ça tombe bien. Il y a une actualité ici très forte, il y a une actualité aussi très forte en France en ce moment. Est-ce que déjà vous pouvez annoncer quelque chose comme ce qu'a annoncé sur notre antenne Patrick Pouyanné hier, le patron de Total Énergie, comme quoi, en tant que fournisseur d'électricité, il allait renégocier des contrats et pour les PME. Est-ce qu'Engie va faire la même chose ?
En fait, Engie, depuis le mois de juillet, sous l'impulsion de Catherine McGregor et de ses équipes, s'est engagée vis-à-vis de ses clients. Nous avons fait énormément d'efforts à la fois pour être proche des clients, leur expliquer la situation, les aider quand ils faisaient face à des situations difficiles. On a mis en place un fonds dès l'été pour aider effectivement les PME qui étaient face à des renouvellements de contrats complexes. Et puis aujourd'hui, on est complètement mobilisé autour du sujet des TPE. Le gouvernement a annoncé un certain nombre de décisions là il y a une dizaine de jours et on est en train de finaliser avec le gouvernement la mise en œuvre concrète de ces mesures qui vont toucher effectivement des dizaines de milliers de TPE.
Donc on reste au niveau TPE, on va pas au niveau PME.
À nouveau, à ce stade, l'enjeu pour nous, c'est de rester proche des clients, de comprendre leurs difficultés et puis de leur apporter des solutions concrètes.
Aujourd'hui, il y a une grande journée de mobilisation en France contre la réforme des retraites. Est-ce que vous redoutez un impact sur l'approvisionnement, notamment en gaz ou en électricité ?
On va voir comment se passe la journée, mais je pense qu'on verra des baisses de production d'électricité en particulier, mais je pense qu'on aura peu d'impact, voire pas d'impact du tout sur nos clients.
Oui. Est-ce que vous voyez il y aura d'autres mouvements de grève qui sont déjà annoncés. Est-ce que pour vous, ça dépend de la mobilisation, évidemment, dans votre secteur ?
Bah, effectivement, le secteur de l'énergie est concerné. Hein, Engie a à peu près un quart de ses effectifs, donc un petit peu plus de 20 000 personnes qui sont au statut de l'électricité et du gaz, et donc qui sont donc concernés par cette réforme. Donc, nous attendons une mobilisation. Nous sommes prêts, nous, à négocier les conditions dans lesquelles cette réforme sera mise en place. Nous sommes en particulier prêts à négocier la mise en œuvre d'un statut attractif pour les nouveaux embauchés qui ne bénéficieraient plus de ce système de retraite. À nouveau, l'heure n'est probablement pas encore à la négociation, mais nous sommes prêts.
Vous êtes prêts à négocier, d'ailleurs.
Nous sommes prêts à négocier.
Ouais, pour les nouveaux entrants.
Pour les nouveaux entrants et de manière plus générale, d'ailleurs, nous sommes toujours prêts à négocier pour améliorer l'offre que nous pouvons faire pour attirer des talents dans ces métiers de l'énergie, de l'électricité, du gaz, qui sont des métiers essentiels à la transition énergétique.
Jean-Pierre Clamadieu, il y a la question d'approvisionnement, là, dans les jours qui suivent avec ce qui se passe en France, mais il y a aussi plus largement les conditions d'approvisionnement de l'énergie en France, en Europe, à cause de ce qui se passe toujours en Ukraine. Est-ce qu'il y a une pénurie de gaz, notamment pour l'hiver? C'est un peu la question récurrente. Même s'il fait très froid ici.
Absolument. On pouvait se poser la question au début de l'hiver. Énorme effort de l'ensemble des entreprises engagées dans ces métiers, en particulier Engie, qui gère les infrastructures gazières françaises, des terminaux méthaniers jusqu'au stockage. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, avec un grand degré de confiance, que nous passerons l'hiver sans rupture d'approvisionnement. Les stockages sont à des niveaux de remplissage très, très élevés. Et je dois dire qu'il faudra vraiment une conjonction d'événements très improbables pour qu'on se retrouve face à une difficulté d'approvisionnement.
Oui, la question, comme toujours, c'est toujours l'hiver prochain.
Alors, j'allais dire, pardon de l'anglicisme, jury's out, mais nous sommes nos équipes, nos experts, convaincus que nous serons capables de remplir à nouveau nos stockages pendant l'été et d'être capable de faire face à l'hiver prochain dans les meilleures conditions possibles. Deux points très importants, les économies d'énergie. Peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais ce qu'on a constaté ces dernières semaines et ces derniers mois est une baisse de consommation de l'ordre de 10%, un petit peu en deçà de 10%, corrigé d'ailleurs des effets de température. Ça, c'est un élément très important. Et c'est vraiment un bénéfice, un acquis qu'il faut être capable de conserver. Et puis, deuxième point de nature un peu différente, la Chine. C'est vrai que la Chine redémarre. On le voit ici à Davos, une présence un petit peu plus forte, des messages des dirigeants politiques chinois autour de la réouverture du pays. Et donc, effectivement, on peut se retrouver dans une situation dans laquelle l'activité économique en Chine décolle, attirant des cargaisons de GNL qui auraient pu venir en Europe. Et donc ça, c'est un point qu'il faut surveiller. Ceci dit, à ce stade, pour nous, je pense qu'on est bien positionné pour être capable de passer l'hiver prochain sans rupture d'approvisionnement.
Mais est-ce qu'entre-temps, vous serez obligé de déstocker ? Il y a une grande question où on voit, on entend, Engie va être obligé de déstocker. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire flamber votre gaz?
Non, alors ça ne veut évidemment pas dire qu'on va flamber notre gaz, mais en fait, Engie dispose d'un réseau de stockage très important en France. Une grande partie de ces stockages sont des stockages géologiques. On stocke du gaz dans une couche entre un aquifère, donc entre une couche d'eau, et puis un dôme généralement en argile. Et ces stockages, pour qu'ils fonctionnent bien, il faut les vider et les remplir régulièrement. Il faut qu'il y ait au moins un cycle annuel dans lequel nous diminuons la quantité de gaz qui est stockée. Nous allons le faire très simplement en réinjectant du gaz dans le réseau. Et à nouveau, ces stockages seront à nouveau au meilleur de leur performance au début de la saison de remplissage et pour l'hiver prochain.
Qu'est-ce que vous retenez d'ici à Davos ?
Probablement quelques lueurs d'espoir. Alors, je suis naturellement optimiste, donc il faut le faire avec prudence. Mais je pense qu'on constate une adaptation de l'économie mondiale et en particulier de l'économie européenne aux situations exceptionnelles qui sont la conséquence de cette crise géopolitique en Ukraine. Et donc, sur la partie énergétique, je le disais il y a un instant, plutôt confiant, pas de rupture d'approvisionnement, des prix de l'énergie qui reviennent à des niveaux qui sont beaucoup plus acceptables. Et puis, pour l'ensemble de l'économie, en particulier l'industrie, une adaptation, une capacité à minimiser les impacts. Moi, j'attends avec beaucoup d'intérêt les résultats du quatrième trimestre. Au troisième trimestre, en fait, les entreprises et les entreprises européennes ont montré de bons résultats. Moi, j'ai le sentiment que la dynamique est en train de tourner et de s'améliorer. Mais à nouveau, il faut qu'on reste extrêmement vigilant parce que la situation est complexe.
La situation, un mot sur Engie. On aurait pu croire que les débuts de 2022 était très difficile, vous-même vous l'aviez dit. On pouvait presque redouter un peu ce qui s'est passé en Allemagne avec Uniper. Finalement, l'année 2022, vous avez présenté vos comptes, donc évidemment, je vous demande pas de précision, mais 2022, pour Engie, sera plutôt une bonne année.
Bah, en fait, 2022, au cours de l'année 2022, Engie a réussi à complètement sortir de sa dépendance au gaz russe. Hein, depuis le mois de juillet, nous ne recevons plus de gaz russe et nous avons réussi à le faire dans les meilleures conditions possibles, à nouveau grâce à l'attention portée par nos équipes à ces sujets. Et je pense que c'est vraiment l'occasion de leur rendre hommage. Et puis, un sujet vraiment important pour nous, c'est de pouvoir continuer cette transition énergétique. Et effectivement, parce que je crois qu'elle est essentielle pour l'Europe, Engie est remarquablement bien positionnée et effectivement, nous avons vu se développer des opportunités de business. Moi, je me permets de rappeler une information que nous avons annoncée ce matin, qui est un très gros contrat de fourniture de biogaz signé par Engie avec un chimiste qui s'appelle Arkema, qui souhaitait disposer de quantités de biogaz pour fabriquer un polymère qu'on appelle l'oryl 100. Nous avons signé un contrat de 3 TWh. C'est probablement le plus gros contrat européen de fourniture de biogaz. Et ça montre que nos clients sont attachés à cette transition énergétique et que nous sommes capables de leur apporter des solutions.
Jean-Pierre Clamadieu, ici, on a beaucoup parlé d'IRA, qui est un peu dans la tête de tous les chefs d'entreprise, évidemment, et que ce que peut la riposte européenne, si la riposte européenne, il peut avoir à temps. C'est drôle, il y a un mot qui est revenu beaucoup de la part des Européens, c'est la rapidité, c'est l'efficacité, la simplification peut-être des mesures. Ouf, il est peut-être temps, non ? Parce que l'IRA, même vous, ça vous attire beaucoup.
Non mais effectivement, ce qui s'est passé cet été, je dois dire, nous a peut-être pris par surprise. Hein, ce fameux Inflation Reduction Act, il comprend quelques dispositifs qui sont incroyablement puissants. Moi, je prends toujours l'exemple de l'hydrogène. Il y a dans ce texte une disposition fiscale, un crédit d'impôt, $3.5 par kilo d'hydrogène produit, qui fait qu'immédiatement, un certain nombre de projets qui étaient sur les étagères ont trouvé le business case qui permettait de les réaliser. En Europe, sur ce même sujet, l'hydrogène, eh bien, on est encore dans des discussions très complexes sur la définition de l'hydrogène vert. Et nous, on dit, attention, enfin, il faut à un moment passer à l'action et il faut le faire avec des outils qui soient efficaces. On parle beaucoup de milliards d'euros mis en place par la Commission, les États membres, ici ou là. Ce que nous voulons, c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui, si l'Europe veut continuer à se battre sur ces sujets, c'est des dispositifs simples, efficaces, qui ne supposent pas d'instructions longues et qui permettent de créer ces business cases qui vont permettre ces décisions d'investissement.
Et vous avez été rassuré ?
Pas complètement. Enfin, c'est un débat que nous avons avec un certain nombre de dirigeants, le président de la République, le chancelier allemand, la présidente de la Commission européenne. Je pense qu'il y a une prise de conscience, première étape nécessaire, mais il faut maintenant passer à l'action. Et j'espère que dans les prochaines semaines, l'Europe sera capable d'apporter sa réponse et qu'effectivement, on trouvera aussi dans le domaine des technologies qui contribuent à la transition énergétique et climatique, la réponse qui vont nous permettre d'investir ici sur le territoire européen, qui dans un certain nombre de domaines est en avance, il faut le dire.
Est-ce que quelque part on peut dire que cette guerre en Ukraine a quand même complètement transformé le secteur énergétique ?
Oui.
En un an ? C'est un peu ce que disait du reste le chancelier Scholz hier.
Non, elle a complètement transformé le secteur énergétique. Enfin, l'Europe a été obligée de réinventer son mix énergétique. Ce mix énergétique a longtemps été construit autour d'un accès à du gaz russe bon marché. Aujourd'hui, il faut trouver d'autres solutions. Le GNL est devenu un élément important de ce mix. Il faut accélérer dans le domaine des renouvelables. On le voit dans différents pays. On le voit aussi au travers de certains dispositifs mis en place par l'Union européenne. Et puis, un tout petit peu plus long terme, on va voir effectivement ces flux énergétique se modifier. Je vous rappelle que la Russie était le premier exportateur d'énergie. La Chine est le premier importateur d'énergie dans le monde. Je pense qu'on va voir des flux de gaz en particulier se réorienter de la Russie vers la Chine. Et il faut que l'Europe, de manière pérenne, trouve un accès à l'énergie qui nous permette de faire face aux besoins à la fois de nos concitoyens et de nos industries.
D'où vient par exemple le gaz, votre gaz chez Engie aujourd'hui ?
Aujourd'hui, le premier fournisseur de gaz en Europe, c'est la Norvège. C'est vrai pour l'Union européenne, c'est vrai pour la France. C'est du gaz qui vient par gazoduc. Et puis en GNL, beaucoup États-Unis, un petit peu Qatar. Mais souvent sur des comptes... un petit peu de GNL venant de Russie également, absolument. Mais il faut que nous aujourd'hui ces quantités de GNL arrivent, je vais dire sous forme spot, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui sont disponibles en particulier parce que les grands clients asiatiques et chinois n'ont pas besoin de ce gaz. Il faut que nous renégocions des contrats de moyen et long terme pour assurer la sécurité énergétique. Et ça, on sera capable de le faire à partir de 2027, moment où de nouvelles capacités de liquéfaction vont démarrer aux États-Unis et au Qatar.
Oui, parce que pour vous, Jean-Pierre Clamadieu, vous le dites souvent, c'est les contrats long terme qui permettent peut-être de définanciariser le secteur de l'énergie.
Alors là, vous entrez dans un autre sujet, mais qui est très important aussi. Il faut effectivement, en Europe, qu'on fasse évoluer les marchés européens de l'énergie, en particulier de l'électricité. Peut-être pas une révolution, parce qu'on veut aller vite. Et par ailleurs, ces marchés ont des effets très positifs. Je vous rappelle que si on a réussi à passer une situation un petit peu difficile en France dans laquelle nos capacités de production nucléaire étaient insuffisantes, c'est parce qu'on a un marché européen de l'électricité qui nous a permis d'importer efficacement et assez massivement pendant quelques mois de l'électricité d'autres pays, en particulier de l'Allemagne. Mais il faut quelques adaptations à ce marché, et c'est vrai que là, les contrats long terme nous paraissent être l'outil indispensable. Il faut que nous favorisions le recours à ces contrats long terme entre des producteurs d'énergie, en particulier des producteurs d'énergie décarbonée, renouvelable, nucléaire, et des consommateurs. Et ça, c'est vraiment la direction dans laquelle il faut aller. Et nous avons, à Engie, mis sur la table quelques propositions s'agissant de la réforme de ce marché de l'électricité. Et l'élément essentiel, c'est favoriser les contrats long terme.
Oui, mais on voit que la réforme du marché de l'électricité, ça prend du temps, parce que, à la limite, tout le monde n'est pas d'accord.
Ça prend du temps parce que c'est très complexe, parce qu'il y a déjà beaucoup de transactions, beaucoup d'engagements à moyen terme sur ce marché, donc il faut arriver à faire cette réforme. Moi, je suis plutôt optimiste qu'autour de, en gros, trois thèmes. Les contrats long terme, le développement d'incitation à l'investissement sur des capacités qui permettent au réseau de fonctionner correctement, très simplement des unités de stockage ou des centrales à gaz, mais pas des centrales qui tournent en base, des centrales qui viennent soutenir le réseau quand la production d'énergie d'origine renouvelable est insuffisante. Et puis un troisième volet, qui renvoie d'ailleurs à la première question que vous me posiez, qui est donner aux États membres la possibilité de soutenir leurs clients et d'éviter une volatilité excessive des prix. Les mesures d'urgence, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il faut au contraire qu'on ait des systèmes prévisibles qui permettent de limiter l'impact de la volatilité des prix de l'énergie sur les clients particuliers et industriels.
Toute dernière question, je reviens sur ce que vous avez dit, parce que c'est un point important, c'est le retour de la Chine. Est-ce que du coup, ça va peut-être entraîner de nouveau une tension sur les prix ?
Alors, retour de la Chine, alors c'est à la fois une bonne chose pour l'économie mondiale. Bien sûr, c'est retrouver une fiabilité dans le fonctionnement d'un certain nombre de supply chains, c'est créer de la richesse et de la croissance. Mais effectivement, pour ce qui concerne l'énergie, la Chine va appeler un petit peu plus de pétrole, plus de gaz, et donc c'est un point d'attention. Aujourd'hui, les prix sont revenus à des niveaux qui sont raisonnables, mais je pense qu'on ne peut pas exclure dans les prochains mois une certaine forme de volatilité dans ces prix de l'énergie qui sera liée à la manière dont l'économie chinoise redécolle.
Merci beaucoup Jean-Pierre Clamadieu d'avoir été avec nous. On va rester trop chaud. Merci beaucoup. Jean-Pierre Clamadieu, donc le président du conseil d'administration d'Engie, était notre invité.
Good evening business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
Autre invité ici à Davos, dans le froid, le grand froid de Davos aujourd'hui, c'est Christophe Catoire, c'est le président d'Adecco, le numéro un mondial du travail temporaire. Bonjour Christophe Catoire.
Bonjour.
Merci d'être là, surtout dans ce grand froid qui me prive de la voix. Mais on va quand même essayer de vous poser quelques questions. Comment, d'abord, grande mobilisation aujourd'hui à Paris, en France, sur les retraites. Est-ce que vous comprenez cette mobilisation ou pas ?
Alors, quand on regarde la réforme des retraites, en fait, on se rend compte que cette réforme, elle a eu lieu dans de nombreux pays. Donc, qu'il y ait une réforme en soi a du sens. La question d'une réforme sur le marché de l'emploi, surtout pour des personnes dont on va repousser l'âge de départ à la retraite, c'est de bien les préparer à rester employables dans la durée. Et je pense que peut-être un des sujets qui mérite d'être une réaction à cette grève qui a lieu aujourd'hui en France, c'est de bien préparer les actifs qui ont plus de 50 ans, un investissement sur la formation qui est probablement trop faible aujourd'hui en France, alors que quand on a encore 15 années de carrière à poursuivre, il faut être prêt pour cela et les entreprises doivent jouer un rôle là-dessus. Donc je pense qu'en soi, c'est probablement le sujet de la revendication.
C'est le grand sujet, le taux d'employabilité des seniors. Comment ça se passe, vous qui avez une vision un peu globale, européenne ? Comment ça se passe ailleurs ?
Ailleurs, les réformes ont été majoritairement faites, c'est-à-dire le report de l'âge en soi apparaît pas comme un sujet. La démographie a fait qu'on a un départ qui est plus tardif, parce que les personnes vivent aussi plus âgées. Donc en soi, le report et la réforme en France arrivent à la limite beaucoup plus tard que les autres. J'ai même envie de dire, sur l'âge qui a été discuté, 64 ans, il est encore beaucoup plus tôt que ce que l'on peut voir dans beaucoup d'autres pays. Encore une fois, le vrai sujet, c'est comment on prépare les individus à cette fin de carrière pour être sûr qu'on n'en ait pas trop qui aillent sur Pôle emploi. On sait qu'à 62 ans en France, 40% des individus sont déjà hors du marché de l'emploi. Ça, c'est probablement le challenge.
Et un des arguments de ceux qui s'opposent à cette réforme est de dire, mais plus vous retardez l'âge de départ à la retraite, plus les entreprises sont tentées de garder les seniors. C'est vrai ou c'est plutôt une fake news, comme on dit, hein ?
Je pense qu'il y a probablement une bonne convergence en ce moment. En fait, le marché de l'emploi est très tendu. On voit qu'il est difficile de trouver des candidats aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, le revendiquent. C'est vrai qu'on a une population expérimentée, disponible, qui a de l'expérience. Le sujet, c'est que le report de l'âge de la retraite ne devrait pas être un problème. Ça devrait être une opportunité pour les entreprises, encore une fois, à condition de préparer les individus à pouvoir opérer dans des environnements qui changent quand même très vite. Ce qu'on voit un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a beaucoup de transformations digitales dans les entreprises. Et ça veut dire qu'il faut avoir les compétences pour pouvoir, entre guillemets, opérer dans cet environnement.
Évidemment, en fait, vous renvoyez un peu la balle aux entreprises en disant « Maintenant, c'est à vous de prendre le sujet en main. »
Oui, je pense. À nous,
elles ont une responsabilité. Vous êtes une entreprise aussi, bien sûr.
Bien sûr.
Une forme de responsabilité importante et qu'il faut qu'elle réponde à ça.
Exact.
Ici, on dit beaucoup, Christine Lagarde l'a encore rappelé tout à l'heure, que le marché de l'emploi se porte bien, même très bien, notamment en Europe. C'est ce que vous observez ? Toujours un marché sous tension ?
Oui, alors c'est un vrai paradoxe. C'est vrai que quand on entend les commentaires sur les perspectives économiques, il y a beaucoup d'incertitudes. Et souvent, dans ces contextes-là, on l'a vu en 2009, on l'a vu aussi sur la crise de 2000, on a une tentation de soit geler les recrutements, soit même d'avoir des plans de restructuration. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises sont soucieuses de maintenir leur capital humain parce que durant la crise, en fait, elles ont vu partir des gens qu'elles ont eu du mal à retrouver ensuite. Et c'est vrai que le marché de l'emploi en Europe, quels que soient les pays, est relativement, on va dire, stable par rapport à ce qu'il était encore il y a 3-4 mois. C'est une bonne surprise. Les tensions sont toujours là. Et ça démontre que là, les entreprises ont définitivement pris le pas de dire leur capital humain est un avantage concurrentiel. Et donc, à part, bien sûr, on sait qu'il y a certains plans dans les métiers de la tech, etc. On en parle beaucoup d'ailleurs. Beaucoup d'entreprises font l'effort de pouvoir maintenir leurs effectifs et surtout leurs compétences.
Une des solutions à la pénurie de talent, aux questionnements autour de la notion du travail, Peter Brabeck, l'ancien patron Nestlé, a dit « Moi j'ai une solution, il faut augmenter les salaires ». Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors je pense que le salaire est un des leviers qu'il faut pouvoir utiliser. D'ailleurs, on le voit. Il y a beaucoup d'inflation un peu partout dans le monde. L'inflation salariale a été importante et nécessaire. Il ne faut pas tout mettre sur l'inflation salariale. On le voit d'ailleurs dans les leviers de fidélité des collaborateurs aux entreprises. Le deuxième indicateur, c'est l'employabilité. C'est comment on prépare les revenus de demain, pas uniquement sur le court terme. Et on voit des entreprises qui panachent des inflations salariales pour leurs propres collaborateurs, mais qui ont aussi un investissement beaucoup plus important sur la formation. Et je parle d'investissement et pas de coût. Avant, on pouvait considérer ça comme un coût. C'est aussi une bonne façon de retenir ses collaborateurs et de les préparer à prendre d'autres responsabilités et augmenter leur salaire sur la durée. Donc, les deux sont importants, surtout en Europe, contrairement à des marchés très transactionnels comme les États-Unis ou l'Angleterre, où on peut augmenter, mais on peut baisser les salaires. En Europe, on augmente les salaires, on ne les baisse pas. C'est un acquis. Donc, il faut regarder aussi ça dans la durée et pas simplement sur le court terme.
Et justement, comment se porte le marché du travail aux États-Unis ? Parce que, sous tension, là, on sent qu'il y a quand même un fléchissement.
Alors, effectivement, les États-Unis ont connu, comme souvent d'ailleurs, un fléchissement beaucoup plus rapide. Il n'est pas très important. La rareté fait qu'on a encore énormément de tensions sur le marché. Malgré tout, il y a eu un peu moins de recrutement qu'il y avait pu en avoir l'année précédente. A contrario, ce que l'on voit avec notamment cette nouvelle loi qui est sortie, l'IRA, on voit que les entreprises se préparent à repartir sur un marché plus dynamique. Est-ce que ce sera au deuxième, au troisième trimestre ? Pour l'instant, c'est difficile à l'identifier. Mais probablement que les États-Unis rebondiront plus rapidement qu'on l'imagine, comme souvent.
On parle beaucoup d'inclusion ici. Comment ça se traduit, l'inclusion ? Parce que c'est un mot, je trouve, très, très à la mode, très, envie de dire, un peu galvaudé. Mais concrètement, ça se traduit comment, pour moi, pour vous ?
Alors, je vais vous prendre deux exemples pour être très concret, parce que je pense qu'il est de moins en moins galvaudé, mais pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que quand on manque de candidats, il faut pouvoir aussi aller chercher les compétences là où elles sont. Ici à Davos, on parle beaucoup des populations de réfugiés, donc il y a beaucoup de publics réfugiés, alors beaucoup de l'Ukraine, malheureusement ça a desservi d'autres typologies de réfugiés. Néanmoins, on a lancé au niveau du groupe Adecco une plateforme Job for Ukraine, et en seulement 3 mois, 7000 réfugiés ont trouvé un job dans 1800 entreprises en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur des publics qui ne parlaient pas nécessairement la langue du pays, quand il y a une cause supérieure et on a des dirigeants qui s'engagent, on voit que l'inclusion, de manière tangible, amène à trouver des compétences. Et ce que nous disent les entreprises qui ont recruté sur cette plateforme, c'est que la fidélité de ces gens est supérieure, parce que quand on reçoit quelque chose, on donne en contrepartie. Donc ça ne veut pas dire que c'est un scénario que l'on va retrouver dans toutes les entreprises. Ceci étant, là aussi, la rareté sert le sujet de l'inclusion, où on perd un peu en productivité pour commencer, mais on gagne sur la durée.
Christophe Catoire, est-ce que votre métier, il est aussi complètement bouleversé par toutes ces tensions qu'il y a eu sur le marché du travail, j'imagine? Le travail temporaire, ça fait une moins bonne image. Maintenant, ça a une image qui s'est nettement améliorée. Vous faites beaucoup de la formation vous-même. Donc, c'est une évolution quand même très forte.
Oui, tout à fait. Le marché français, nos équipes en France font un travail remarquable là-dessus. On voit que, un, les notions de flexibilité s'entendent avec beaucoup de véhicules très différents, contrairement à avant. Et un groupe comme Adecco va faire de l'intérim, mais va faire du recrutement, va faire de l'outsourcing, va faire de l'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment un premier levier. Le deuxième levier, c'est qu'il y a une recherche, surtout dans un métier à intention, d'avoir un contrat qui soit consistant en termes de contenu. C'est-à-dire qu'il y ait une protection sociale, qu'il y ait de la formation pour l'employabilité. Et on voit que les travaux qui ont été faits au travers des plateformes, des métiers de plateforme, d'ailleurs l'Union européenne est en train de travailler sur une loi à ce titre-là, l'objectif est de s'assurer que le contrat soit gagnant-gagnant. On peut avoir la flexibilité, mais il faut que ce soit sécurisé. C'est un peu notre rôle en tant qu'acteur de l'emploi.
Toute dernière question, il y a eu un tabac ici sur une séquence qui s'appelait la semaine de 4 jours. Ça montre aussi qu'on a un peu de un rapport différent au travail.
Non, ça veut dire, et sincèrement, je suis pas un grand fan en fait des extrêmes. Je pense que vous allez avoir des individus qui vont rechercher à avoir, à titre personnel, une expérience avec l'entreprise qui les amène à travailler à distance la majeure partie du temps. D'autres vont être malheureux par le fait de ne pas avoir d'interaction sociale. Décréter une semaine à 4 jours pour tout le monde partout, j'y crois pas vraiment. L'expérimenter, ça a beaucoup de sens. Et à terme, pourquoi pas dans une entreprise, avoir des personnes qui travaillent sous un format et d'autres sous un autre format. Ça fait partie de l'entreprise qui est d'avoir un peu de diversité dans ses modalités de flexibilité.
Voilà l'entreprise de demain. Merci beaucoup, Christophe Catoire, d'avoir été avec nous. Donc, le président d'Adecco, je le rappelle, quand même le numéro 1 mondial. Merci beaucoup.
Merci.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.